Bonjour, aujourd'hui nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, La Presse et Le Devoir. Au programme, André Trudel, brasseur de vin, des poupées au service de la société, du neuf dans l'histoire de Jeanne Mars et COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. Bonne écoute.
André Trudel, brasseur de vin, un texte de Karine Duplessis-Piché, paru le 8 mai 2023 dans La Presse. Pendant 17 ans, André Trudel a produit de la bière, beaucoup de bière. Mais entre deux brassins, le cofondateur de la microbrasserie Le Trou du Diable à Shawinigan rêvait de vin. Son rêve prend forme aujourd'hui en Italie, où il s'est associé avec un autre ex-brasseur, Giovanni Campari. La première cuvée nommée « Is This It » est offerte en importation privée. Dans sa maison en banlieue de Shawinigan, André Trudel boucle ses valises. L'ancien brasseur du Trou du Diable se prépare pour un séjour de 5 semaines en Italie avec comme objectif de goûter et d'embouteiller ses vins. Car après avoir vendu le Trou du Diable à Molson en 2017, André Trudel devait se réinventer loin de l'univers de la bière. Le monde du vin est alors devenu une évidence. Il y a plusieurs années, André Trudel s'était lié d'amitié avec le brasseur italien Giovanni Campari. Ensemble, ils ont créé plusieurs brassins, tantôt au Québec, tantôt en Italie. Chaque fois qu'on se retrouvait, on buvait et on parlait de vin, se souvient-il. Ce sont les prémices de notre projet. Coup du hasard, Giovanni Campari a vendu son entreprise au même moment que M. Trudel. Les deux ex-brasseurs se sont retrouvés au bord de la mer, dans les vignes de la Ligurie. Tout est dans tout. André Trudel l'avoue sans détour, il ne connaît pas la vigne et il ne veut pas travailler dans le champ. Je vois les efforts herculéens que font les vignerons partout dans le monde, raconte-t-il. Être vigneron, c'est d'abord être fermier. J'ai travaillé vraiment fort dans les 18 dernières années et devenir vigneron, ce serait m'offrir une deuxième vie aussi occupée que la première. André Trudel et Giovanni Campari agissent à titre de négociant. Ils achètent des raisins, puis les vinifient sous leur nom de marque Wine Brewers. Puisqu'ils ne possèdent ni cuve ni chai, ils se sont installés au domaine Cantina San Steva, qui fournit déjà les fruits. Le duo a 2 vendanges à son actif. Et selon la récente expérience de l'ancien brasseur, il semble moins complexe de produire du vin que de la bière. Dans le vin, il y a un seul ingrédient, le raisin. Alors que dans la bière, il y en a plusieurs, observe M. Trudel. La bière est plus fragile. Elle a peu de tanins et moins d'alcool. Il faut être hyper prudent. Pas évident. Si la vinification est un processus à la base simple, faire du bon vin n'est pas toujours évident, convient l'ex-brasseur. Surtout quand on travaille naturellement, sans levure ajoutée et avec très peu de sulfite. Dans la bière, on contrôle presque tout, même la composition de l'eau. Tandis que dans le vin, on s'en remet complètement à la nature. on doit avoir l'humilité de la laisser faire sa job. André Trudel refuse toutefois que ces vins nature possèdent des notes d'écurie associées à la brette, les levures Brettanomyces, ou des odeurs de vernis à ongles provenant de l'acide volatile. Bien que ces caractéristiques soient acceptées dans la bière, le néo-vigneron n'en veut pas dans son vin. Dans certains vins nature, le terroir ne parle plus. Ce sont les bactéries qui prennent la place, dit-il. Je préfère boire une Cantillon qu'un vin nature qui goûte comme un lambic. La production des wine brewers est encore petite. La cuvée Isdesit a donné environ 2500 bouteilles, mais l'ex-brasseur voit grand. Le tandem planifie de vinifier dans différentes régions d'Italie et, pourquoi pas un jour, au Québec. C'était André Trudel, brasseur de vin, un texte de Karine Duplessis-Pichet, paru le 8 mai 2023 dans La Presse.
Des poupées au service de la société. Un texte de Extra Femme, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. C'est en 2019 que Clara Day Lewis s'est engagée à révolutionner le monde des jouets pour enfants en créant Brown Diva Dolls. Son but? Aider les enfants afro-descendants à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes grâce à des poupées qui leur ressemblent. Rencontre avec une femme qui a su conjuguer son identité, son rôle de mère et de travailleuse sociale avec son projet entrepreneurial. La genèse de l'entreprise. Nous avons tous eu des poupées blondes aux yeux bleus quand nous étions jeunes, fait remarquer l'entrepreneur. Or, selon Clara Day Lewis, cette façon hégémonique de représenter la beauté a une incidence négative sur l'estime des enfants issus de la diversité. En réfléchissant, comme une afro-descendante, comme une mère et comme une travailleuse sociale, elle a vu l'idée des poupées lui apparaître clairement. Grâce à elle, il y a moyen de sensibiliser les jeunes à la différence dès l'enfance, et ce, par le jeu. J'ai moi-même accepté ma différence à l'âge de 40 ans. Longtemps, j'ai tout fait pour avoir des cheveux lisses, pour ressembler à ces standards impossibles à atteindre pour bien des gens, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. De travailleuse sociale à entrepreneur. Lorsqu'on lui demande si elle a toujours eu ce rêve de se lancer en affaires, Clara confie « Ma mère était couturière et travailleuse autonome. » Le monde des affaires faisait donc partie de ma vie de famille. Des idées, elle en a toujours eu, mais elle souhaitait les garder pour plus tard et se diriger d'abord vers sa première passion, la relation d'aide. « J'ai ça dans mon ADN », dit-elle. Ce n'est donc pas pour rien que le projet de Brown Diva Dolls unit à merveille ces deux pans de sa personnalité. Femme, mère et entrepreneur. Lorsqu'il est question d'entrepreneuriat au féminin, plusieurs défis nous viennent en tête, et ils sont plus présents lorsqu'ils sont conjugués avec le rôle de mère. Le parcours de Clara ne fait pas exception à la règle. Si c'est plus difficile pour les femmes en affaires, ça l'est encore plus pour les afro-entrepreneurs, explique-t-elle. Étant mère, en plus, je ne peux pas faire plusieurs événements de réseautage par semaine. C'est donc plus long de sortir de mon cercle de connaissances de base. Cela dit, la maternité a également nourri la nature de son entreprise en l'amenant à être plus consciente du monde actuel. L'incidence de la représentation positive. Si jouer à la poupée développe les aptitudes psychosociales des jeunes, l'activité a aussi le potentiel de les aider à avoir de l'empathie pour la différence. En plus, de servir de prétexte à des conversations importantes. Un sentiment de bonheur anime l'entrepreneur lorsqu'elle reçoit des témoignages de mères blanches qui ont pu aborder la question du racisme à la maison grâce au Brown Diva. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle refuse de dire que ces poupées sont uniquement destinées aux enfants noirs. Les poupées sont pour tous les enfants. Plus les jeunes sont en contact avec la différence, plus nous allons créer des adultes conscients de celle-ci, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. La poupée comme moyen d'expression. Chose certaine, Brown Diva Dolls a le vent dans les voiles. L'entreprise vient de lancer une poupée représentant la docteure Alexandra Bastiani, première femme noire à être devenue cardiologue d'intervention au Canada. Si ce genre d'initiative remplit Clara Day Lewis d'une grande fierté, rien n'égale celle qui accompagne le fait de savoir que ces poupées sont reconnues comme un outil éducatif. Elles sont utilisées dans certains endroits pour des animations sur le vivre ensemble, souligne-t-elle. Il reste qu'il y a peu de poupées noires dans les écoles, les garderies et les centres de la petite enfance, CPE. Clara et son équipe travaillent donc à créer une trousse d'animation-intervention clé en main qui se révélera idéale pour ces établissements. C'était « Des poupées au service de la société », un texte de Extra Femme paru le 9 mars 2023 dans La Presse.
« 9 ans dans l'histoire de Jeanne Mance », un texte de Jean-Benoît Nadeau paru le 6 mai 2023 dans Le Devoir. C'est en 1695, après un incendie qui a ravagé l'Hôtel-Dieu et consumé le cœur préservé de Jeanne Mance, que le militaire Gédéon de Catalogne dessine les plans du nouvel ensemble conventuel. En tant que muséologue et historien, le directeur du musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Paul Labonne, est fasciné par les nouvelles connaissances qui lui parviennent actuellement sur Jeanne Mance et les Hospitalières. Il vient de tomber sur une grosse talle, 411 documents inédits rien que sur la fondatrice de Montréal. Il peut dire merci à l'historienne Dominique Deslandres, professeure titulaire à l'Université de Montréal et chercheuse principale du projet de recherche « La fabrique de l'histoire montréalaise », qui dit vivre une époque extraordinaire qui bouleverse complètement la recherche historique. Grâce au logiciel de reconnaissance numérique des écritures appelé Transcribus, explique-t-elle, il est désormais possible de traiter des photos de documents d'archives avec un algorithme qui transcrit le document en Word. Imaginez, j'ai pris un jour et demi pour photographier 10 000 documents, et en 5 minutes, c'était retranscrit. C'est la totalité des archives judiciaires, notariales, officielles et paroissiales qui sont désormais consultables en format Word. Ça jette un éclairage nouveau sur toute l'histoire de la Nouvelle-France, dit Paul Labonne. L'Hôtel-Dieu ayant été incendié 3 fois, il y a énormément de trous parmi les documents qui ont traversé les siècles. Or, Jeanne Mance était partout, dans tout. Elle assistait à tous les mariages. Elle était la marraine de 73 enfants, soit presque autant d'Autochtones que de Français. Les documents d'archives, aisément consultables, permettent de la suivre d'assez près. Je n'ai qu'à taper « Mance » ou « Hospital » pour retrouver d'un coup toutes les mentions parmi les centaines de milliers de documents. Ça change toute la donne, souligne-t-il. Un nouveau portrait. En tant qu'administratrice, Jeanne profite certes des fonds de Madame de Bullion, mais elle est tout le temps en train de chercher de l'argent, raconte Paul Labonne, qui va de découverte en découverte. On savait, par l'historien Robert Lionel Séguin, qu'elle avait deux charrues de fer, ce qui lui permettait de faire fructifier ses terres et assurer la subsistance de son hôpital. Et elle avait du bien. L'inventaire de ses biens, qui figure dans la biographie de Marie-Claire d'Aveluy, fait 29 pages. Mais dans les archives judiciaires, dit Paul Labonne, je suis tombé sur le fait qu'elle avait obtenu les recettes des amendes infligées aux coureurs des bois qui vendaient de l'alcool aux Autochtones. Les archives jettent aussi un éclairage neuf sur des faits que l'on croyait avérés. On apprend par les archives qu'elle signe un contrat le 27 mai 1658 pour faire construire les planchers de la chapelle. Et le 28 septembre, alors qu'elle s'apprête à partir un an en France, elle embauche deux obligés pour finir la chapelle en son absence. Conclusion, la chapelle était encore en construction, alors que les chercheurs ont toujours estimé que ce travail avait été fait 2 ans plus tôt. En faisant visiter son musée, Paul Labonne pointe les dessins du premier Hôtel-Dieu dessiné par l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne à partir de documents d'époque. Il montre 4 lucarnes, mais les actes notariés parlent de 3. Regrouper, ordonner, analyser. La discipline historique, c'est à la fois l'accès à de nouveaux documents et la critique des sources. Par exemple, les travaux du chercheur Geoffrey Duvois ont révélé quelle avait été sa maison natale à Langres, rue Barbier-Daucourt. La collection des hospitalières, gérée par le musée des hospitalières, recèle 30 000 artefacts significatifs, mais paradoxalement, très peu d'objets dont on peut dire avec certitude qu'ils ont appartenu à Jeanne Mance. Et les documents de sa main ayant survécu au sinistre sont plutôt rares. Il y a beaucoup plus de certitudes sur les traces qu'elle laisse dans les actes notariés, les baptistères, les archives judiciaires, précise Paul Labonne. Mais il explique n'en être qu'au début de ce patient travail d'étude. Avant de pouvoir faire des liens et l'analyse, la première phase consiste à établir une chronologie. Après, on sera en mesure de réinterpréter plusieurs choses que l'on croyait savoir et d'en confirmer d'autres. Le muséologue est désormais capable de voir les réseaux de Jeanne Mance, les personnages qui gravitent autour d'elle. Les connaissances deviennent évolutives. Je peux interroger sur le chirurgien Étienne Bouchard et découvrir tout un tas de détails. On voit les contrats, les donations de terrain, dit-il. Avec les archives judiciaires, qui sont souvent écrites verbatim, on les entend parler, rire, raconte Dominique Deslandres. On touche ici au rêve absolu des historiens, celui de recréer l'histoire totale. C'était « Du neuf dans l'histoire de Jeanne Mance », un texte de Jean-Benoît Nadeau paru le 6 mai 2023 dans Le Devoir. COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. Un texte d'opinion de Sabah Khan et Shi Tao Zhang, paru le 15 décembre 2022 dans la presse. Sabah Khan est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki et Shi Tao Zhang est coordonnatrice de projet à la Fondation David Suzuki. En décembre 2022, des représentants des gouvernements et de la société civile se sont réunis à Tiotiake, Mouniang, Montréal, pour négocier un accord international visant à stopper et à inverser le déclin catastrophique de la biodiversité. Les attentes étaient élevées quant à l'émergence d'un cadre ambitieux avec des objectifs et des cibles collectifs mondiaux pour 2030. La violence à l'égard des femmes étant en hausse dans le monde entier, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 doit affirmer fermement l'égalité des sexes en reconnaissant explicitement l'égalité des droits des femmes et des filles et leur accès à la terre et aux ressources naturelles, ainsi que leur participation équitable et significative à la gouvernance de la biodiversité et à l'élaboration des lois. Les négociateurs de la COP15 ne pouvaient ignorer le fait que la dégradation des écosystèmes naturels a des impacts sexo-spécifiques et que l'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde, en particulier celles qui sont autochtones et celles qui vivent dans les pays du Sud, est primordiale pour remédier efficacement à la perte de la biodiversité. Les femmes représentent plus de 40% de la main-d'œuvre agricole et 47% de la main-d'œuvre de la pêche dans le monde, mais elles représentent moins de 20% des propriétaires terriens. Un récent rapport des Nations Unies indique que dans au moins 102 pays, les femmes se voient refuser les droits de propriété terrienne en vertu de lois coutumières, traditionnelles ou religieuses. Elles sont également surreprésentées dans les emplois précaires, mal payés et parfois non rémunérés, avec moins de droits légaux que les hommes. Moins d'accès au crédit, moins de droits territoriaux, moins d'accès aux structures décisionnelles et aux sphères de gouvernance. Elles représentent 70% des personnes les plus pauvres du monde et sont donc particulièrement touchées par la destruction écologique qui restreint l'accès aux ressources alimentaires, énergétiques et hydriques de base. La perte de la biodiversité, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, l'épuisement des ressources et les déplacements de population exacerbent les inégalités sociales et économiques existantes. En 2018, l'ONU a indiqué que 80% des personnes déplacées par des catastrophes environnementales étaient des femmes. Nous savons également que la violence à l'égard des femmes a augmenté à la suite de catastrophes climatiques. Au Pakistan, les violences sexistes telles que les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les mariages forcés ont augmenté de 80% après que des inondations dévastatrices ont forcé 33 millions de personnes à fuir leur domicile en 2022. Les industries minières présentent des risques critiques pour les femmes. Au Canada, l'exploitation des combustibles fossiles est profondément liée à la perte de la biodiversité et à la violence contre les femmes. Le rapport du gouvernement du Canada sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées identifie les camps de travailleurs, non autochtones, embauchés pour construire des pipelines sur les terres autochtones, appelés « camps d'hommes », comme un facteur substantiel de l'augmentation des agressions sexuelles et des meurtres de femmes, de filles et de personnes bispirituelles autochtones. Selon Justice and Corporate Accountability Project, JCAP, les sociétés minières en Amérique latine, dont 41% sont enregistrées au Canada, ont régulièrement fermé les yeux sur les brutalités perpétrées par leurs employés contre les femmes locales. Les guerres et les campagnes militaires endommagent également de manière irréversible les écosystèmes et les paysages naturels à l'aide d'explosifs, de métaux lourds et de véhicules polluants et soumettent les femmes et les filles locales à des abus et à des meurtres, parfois en guise de tactique. Les réalités de la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques montrent que la réforme des lois sur la biodiversité et le climat doit donner la priorité et devenir des vecteurs de protection et de consolidation des droits des femmes et des filles à la vie et à l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement, à la terre, au logement, à l'éducation et à un travail décent. Pourtant, à tous les niveaux de l'élaboration des lois et de la gouvernance environnementale, les femmes ont été sous-représentées. Face à la triple crise de la perte de biodiversité, des changements climatiques et de la violence sexuelle et sexiste, les femmes et les filles du monde entier sont confrontées quotidiennement à des violations de leurs droits fondamentaux. Les forums internationaux de prise de décision tels que la COP15 doivent faire de la place aux femmes autochtones et des pays du Sud. Ce n'est qu'avec leur participation active et en position d'autorité que la communauté internationale pourra réussir à mettre en œuvre des mesures efficaces pour stopper et inverser la perte de la biodiversité. L'autonomisation des femmes et des filles est au cœur de nombreuses solutions qui doivent être mises en œuvre immédiatement pour régler les dettes écologiques et climatiques que les pays du Nord doivent au Sud. Pendant trop longtemps, les intérêts militaires et commerciaux ont dirigé les réponses à la perte de biodiversité et au changement climatique, alors que les femmes et les filles étaient en première ligne des luttes pour la justice environnementale et climatique. Il est temps que cette incohérence prenne fin. C'était COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. Un texte d'opinion de Sabaa Khan et Shitao Zhang, paru le 15 décembre 2022 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, Diane Métaillé, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Aya Jennifer Andou à la présentation et Nicolas Swartman au montage.